France Culture.
Et Anne Fauquemberg est là pour le journal de la rédaction. Bonjour Anne.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Malgré les appels internationaux à mettre fin à la guerre, l'armée israélienne étend ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Et dans ce contexte, la France réclame le retour des correspondants internationaux sur place, alors que la population meurt de faim et que les journalistes palestiniens peinent également à survivre. Nous entendrons le témoignage de l'un d'entre eux au début de ce journal.
Au Pakistan, le début de la saison des moussons est meurtrière. Des pluies torrentielles ont fait plus de 220 morts.
Nous serons également en direct de Bruxelles où la Hongrie continue sa politique de la différenciation. Elle vient de sceller un projet d'oléoduc avec la Russie à rebours des positions européennes.
En France, le gouvernement réagit au succès de la pétition contre la loi Duplomb dans la cacophonie. Analyse à suivre.
Enfin, gros plan sur une initiative de l'UFC Que Choisir contre Stellantis pour indemniser les propriétaires de véhicules munis d'airbags Takata. Israël étend ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza. Selon la défense civile palestinienne, il y a eu 15 morts ce matin dans le nord de l'enclave, dont 13 dans un camp de réfugiés. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dénonce aussi des attaques contre plusieurs de ses locaux dans le centre du territoire. Dans ce contexte, et après un appel lancé par 25 pays pour mettre fin à la guerre, la France, par la voix de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, réclame le retour de la presse internationale à Gaza. La vie des journalistes palestiniens est menacée, victime des frappes et des pénuries. Ils sont en train de mourir de faim, s'alarmait hier soir la Société des journalistes de l'agence France Presse. Nous aussi, à Radio France, nous travaillons avec plusieurs journalistes sur place, dont Youssef, installé à Deir el-Bala. Écoutez son témoignage avec Noah Perry.
On a resté 2 personnes dans la maison, ils ont frappé la maison. Maintenant, on est encerclés, les chars sont tout autour de nous. On ne peut pas sortir. La maison a reçu 3 roquettes. Tout est cassé dans la maison, tout est bombardé. Personne ne sait où il va y aller. Personne ne peut travailler. Tu travailles ou bien tu cherches à manger ou bien tu cherches à faire manger tes enfants ou bien à les protéger. T'as rien, rien. Personne ne peut imaginer de travailler chaque jour pendant 2 ans sans arrêt. Personne ne peut faire un planning pour 1 heure prochaine ce que je vais faire. Tu te lèves le matin, tu cherches de l'eau pour boire, pour manger, pour y aller aux toilettes. Tu dois te battre pour avoir de la farine. Ça a devenu introuvable. Pas de farine, pas de pain. C'est la mort. Comme journaliste, tu travailles, tu dois y aller, tu dois couvrir, tu dois protéger tes enfants, tu dois... C'est incroyable. Nous, avec nos gilets, le gilet ne protège pas le journaliste à Gaza. Le contraire, tu seras ciblé. Moi, je suis personnellement sans gilet. J'ai jeté mon gilet. Parce que mon gilet ne m'a pas protégé. Qui va me protéger? Nous, les francophones, non seulement les francophones, tous les journalistes, vraiment, c'est des héros. Ils ont laissé leur famille sortir à travailler juste sans rien, rien, dans des mauvaises conditions. Pas de gaz, pas d'essence, pas rien. Mais on est obligé de continuer. N'a pas le choix. Le métier d'un journaliste, normalement, c'est grande chose. Mais malheureusement, ici, non.
Des propos recueillis par Noah Perret pour France Culture. Le Bangladesh observe une journée de deuil national ce mardi. Un avion de chasse s'est crashé sur un complexe scolaire à Dhaka hier en début d'après-midi. Il y a au moins 31 morts, pour l'essentiel des élèves victimes de brûlures. Selon l'armée, l'avion a été victime d'un problème technique. L'Asie du Sud-Est est en proie également à la mousson. Des pluies torrentielles frappent le Pakistan. Un début de mousson inhabituel. Véronique Rebérode, bonjour.
Bonjour.
Il y a plus de 220 morts, dont de nombreux enfants.
Oui, la moitié des victimes sont des enfants. Il y a aussi une quarantaine de femmes mortes depuis fin juin. C'est le début de donc la mousson au Pakistan, pays, on le voit d'année en année, particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique et qui subit de plus en plus fréquemment des événements climatiques extrêmes. Les pluies torrentielles causent chaque année des victimes. Elles se sont abattues sur le pays plus tôt cette année que les années précédentes. Elles sont à l'origine d'effondrements de maisons emportés par d'énormes inondations, des crues soudaines qui emportent tout sur leur passage, engloutissent aussi des fils électriques qui, une fois dans l'eau invisible, électrocute les habitants. Hier, ce sont des glissements de terrain dans le nord du Pakistan, après de très fortes pluies qui ont tué 3 personnes, emporté dans leur véhicule des touristes surpris sur une petite route de montagne. 15 autres sont portés disparus, coincés dans leur voiture, pris dans la boue, et des centaines de touristes ont dû être pris en charge. Au Pakistan, la mousson d'été, qui s'étale donc de fin juin à début septembre, est vitale pour le pays, pour la subsistance des agriculteurs. Plus largement, la mousson apporte entre 60 70 et 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud, mais elles sont de plus en plus, donc on l'a dit régulièrement, meurtrières et dévastatrices. Le Pakistan a encore du mal à se remettre des inondations de 2022 qui avaient touché un bon tiers du pays, 33 millions de personnes il y a 3 ans, donc 1700 personnes avaient été tuées, une bonne partie des récoltes avaient été perdues.
Le compte-rendu de Véronique Rebérotte. Aux Philippines, c'est un typhon qui provoque des inondations. 70 000 personnes autour de Manille ont dû être évacuées. Un typhon qui a entraîné au moins la mort de 6 personnes et fait 6 disparus. En Iran, une vague de chaleur provoque des pénuries d'eau et d'électricité dans une grande partie du pays. 18 des 31 provinces sont touchées par des températures extrêmes. Il y aurait des coupures d'eau dans certains quartiers de Téhéran et les heures de travail ont été réduites ou ajustées dans les administrations pour économiser l'énergie. L'infrastructure pourrait entrer en service en 2027 et pourrait transporter 5 millions de tonnes de pétrole par an. La Hongrie vient d'annoncer un projet d'oléoduc pour transporter du pétrole russe de Budapest à Belgrade. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Bruxelles pour France Culture. Cette décision est complètement à rebours des projets européens.
Oui, et ce à double titre. D'abord parce que cette annonce intervient quelques jours après l'adoption par l'Union européenne d'un 18e paquet de sanctions économiques contre la Russie, des mesures qui font la part belle justement au secteur énergétique avec l'ambition très clairement affichée de limiter les exportations de pétrole russe dans le monde entier pour ne pas alimenter la machine de guerre déployée par Vladimir Poutine en Ukraine. Et puis deuxième accroc majeur aux politiques actuelles de l'Union européenne, les 27, depuis maintenant plusieurs années, cherchent à s'affranchir de toute dépendance aux hydrocarbures russes. Cela se fait au prix de coûteux efforts, notamment pour l'Allemagne, qui a fondé pendant longtemps une partie de sa croissance économique sur le gaz russe à bas coût. La Hongrie, membre elle aussi de l'Union européenne, compte bien pourtant continuer. Bruxelles casse les liens énergétiques, interdit les sources d'énergie russe et bloque les voies d'approvisionnement, accuse le ministre des Affaires étrangères de Viktor Orban. Hongrie et Serbie disent vouloir continuer à bénéficier des factures énergétiques les plus basses d'Europe. S'il entre en service, cet oléoduc entre Budapest et Belgrade est prévu pour 2020. C'est exactement au moment où l'Union européenne espère par ailleurs pouvoir se passer totalement de gaz russe.
Les précisions de Fabien Cazot à Bruxelles. En Italie, le numéro 2 de l'Opus Dei, l'Argentin Mariano Fazio, pourrait être mis en examen dans une affaire de trafic d'êtres humains. 43 femmes originaires d'Argentine, de Bolivie et d'Équateur accusent l'institution de les avoir exploitées pendant des années. 4 prêtres sont déjà mis en cause en Argentine pour des faits allant de 1991 à 2015. Pour le nouveau pape, Léon XIV, cela constitue un premier dossier difficile. À Rome, c'est une correspondance de Xavier Sartre.
Il est urgent de réaffirmer notre engagement à garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Le 20 juin, Léon XIV adressait ces mots aux Péruviens à l'occasion d'un spectacle revenant sur l'affaire Solidacio, ce mouvement catholique dissous en avril dernier par le pape François à cause déjà de cas d'abus de diverses natures. Nul ne sait pour l'instant au Vatican si la problématique générale des abus a été abordée lors de la rencontre que le nouveau souverain pontife a eue 9 jours auparavant, le 11 juin, avec le chef de l'Opus Dei et son adjoint, venu présenter le projet de nouveau statut de leur institution, comme l'avait ordonné François 3 ans avant. Car la gouvernance de l'œuvre de Dieu, fondée en 1928 en Espagne, a été remise en cause par le pape argentin qui la voulait moins hiérarchique, pour ne pas dire moins autoritaire. Déjà, les méthodes de cette influente institution interrogées jusqu'au Vatican. Mais comme souvent au sein de l'Église, chaque affaire est d'abord gérée au niveau local, puis national, avant de remonter jusqu'à Rome. Et celle qui concerne l'œuvre en Argentine n'y échappe pas. Mais le fait que l'un des principaux responsables de l'Opus Dei soit à Rome et y soit connu depuis de nombreuses années pour y avoir assumé des responsabilités au plus haut niveau pourrait bien accélérer les choses. Mais le Vatican n'a pas pour habitude de se précipiter, même si Léon XIV a démontré toute sa détermination dans la lutte contre les abus quand il était évêque au Pérou.
Les explications de Xavier Sartre. En France, alors que la pétition contre la loi Duplomb dépasse ce midi les 1 500 000 signatures, le gouvernement commence à réagir. Mais plusieurs lignes cohabitent, celle du soutien au texte, bien sûr, et quelques voix dissidentes se font entendre. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, rappelle son opposition au retour de l'acétamipride.
Je suis, à titre personnel, contre la réintroduction de l'acétamipride. Tweet publié hier soir sur X par la ministre qui réaffirme son avis sur la loi Duplomb, position qu'elle a, rappelle-t-elle, toujours tenue même l'année dernière en pleine crise agricole alors qu'elle était alors ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, qui salue également la pétition contre le texte, une mobilisation synonyme d'un attachement aux enjeux d'écologie et de santé environnementale qui sont pour elle des priorités. Une sortie qui fait grincer des dents au sein du gouvernement, agacement notamment d'Aurore Berger en charge de l'égalité femmes-hommes, invitée ce matin de France Info.
Parce qu'il y a une ligne qui a été claire, qui est qu'il y a une proposition de loi qui a été soutenue par le gouvernement. Donc, la ligne du gouvernement, c'est que nous avons soutenu la proposition de loi Duplomb. Il n'y a pas à avoir en permanence des avis personnels. Quand on est membre d'un gouvernement, vous assumez d'être solidaire des décisions qui sont prises. Parce que sinon, ça crée de la confusion.
Et du côté du ministère de l'Agriculture, il faut faire bloc. Annie Genevard, après plusieurs jours de silence, martèle de nouveau dans un tweet cette ligne gouvernementale, celle de soutenir les agriculteurs, d'éviter les importations de moindre qualité. Autre argument, les parlementaires ont adopté une version strictement encadrée, fondée sur l'avis de l'Agence sanitaire européenne de référence, justifie la ministre. Alors qu'Agnès Pannier-Runacher, tout comme d'autres parlementaires, dont Gabriel Attal, appelle à une solution simple pour sortir par le haut, saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire afin qu'elle puisse donner son avis sur les dérogations. La science n'a pas vocation à se substituer aux politiques, mais elle peut utilement l'éclairer, conclut la ministre de la Transition écologique.
Les explications de Marion Ferrer. Le ministère de la Transition écologique annonce aussi une aide de 49 millions d'euros pour cette année, destinée à soutenir la filière de la collecte et du recyclage des textiles et chaussures. L'objectif consiste à consolider l'économie de la collecte, du tri, du réemploi et du recyclage sur le territoire national, tout en renforçant notre capacité de gestion des textiles usagés, selon Agnès Pannier-Runacher. Le gouvernement présente aujourd'hui sa feuille de route en faveur d'un sommeil de qualité, notamment pour les enfants et les adolescents. Un Français sur cinq dort moins de 6 heures par nuit. Leur temps de sommeil a diminué en moyenne d'une heure et demie en 50 ans, selon France Info, qui a pu consulter un document sous embargo. La question du sommeil devrait être placée prochainement au cœur de différentes politiques publiques, santé, travail ou encore éducation. Les 17 premiers narcotrafiquants jugés les plus dangereux sont arrivés à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui l'a annonce sur son compte X. Ces transferts à haut risque vont se poursuivre tout le mois de juillet et dans le courant du mois d'août, 100 narcotrafiquants doivent être au total transférés. Une action de groupe contre Stellantis. Elle vient d'être lancée par l'UFC Que Choisir pour réclamer le versement d'indemnités aux propriétaires de véhicules équipés d'airbags Takata faisant l'objet d'une immobilisation forcée. 1 700 000 voitures équipées par cette marque sont à ce jour interdites de circuler jusqu'au remplacement des airbags. Caroline Félix, que réclame l'association?
Elle veut que le constructeur indemnise ses automobilistes car quand on ne peut pas utiliser sa voiture, les frais s'accumulent. Magali Butard est responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir. Elle a listé une dizaine de motifs.
Tous les frais d'assurance que les consommateurs ont continué de payer alors qu'ils n'utilisaient pas leur véhicule. Certains ont dû payer des frais de stationnement puisqu'ils n'avaient pas forcément de garage ou de parking. Les frais de transport de substitution, les frais de location de véhicule pour certains, ou acheter des billets de train ou avoir des frais de taxi. Puis le préjudice d'anxiété parce que vous comprenez alors que pendant des années, potentiellement, vous avez conduit un véhicule qui pouvait être très dangereux pour votre vie.
Et tout cela représente des centaines, voire des milliers d'euros. Alors, Stellantis n'a pas construit ces airbags défectueux, mais il est tout de même responsable, d'après l'UFC, car cela fait 10 ans qu'il connaissait le problème.
S'il l'avait fait dans ces conditions, les rappels auraient été beaucoup plus ventilés et on ne se retrouverait pas avec des périodes d'immobilisation aussi longues. Aujourd'hui, les ateliers sont saturés, les stocks d'airbags sont insuffisants et donc, qui trinque, c'est à nouveau le consommateur.
L'association agit maintenant, car elle s'appuie sur une réforme de l'action de groupe entrée en vigueur il y a 4 jours. Elle élargit les motifs d'indemnisation et elle instaure une juridiction spécialisée pour les contentieux collectifs. Au cours de cette procédure, il faudra d'abord faire reconnaître la responsabilité du constructeur, puis fixer le montant des indemnisations. C'est dans cette seconde phase que les consommateurs sont appelés à se manifester. Il y en a potentiellement près de 2 millions. L'UFC appelle tous les automobilistes concernés à garder leurs factures et à rester patients, car la procédure pourrait durer des mois, voire des années.
Caroline Félix, 9 plages de la Manche sont interdites à la baignade aujourd'hui autour de Granville après les fortes pluies de ces dernières heures. Une décision prise par l'Agence régionale de santé Normandie pour dépassement de seuils microbiologiques, rapportent nos confrères d'ici Cotentin. La météo un peu moins pluvieuse aujourd'hui, sauf dans le nord et l'est, et les températures, il fera cet après-midi de 19 à Brest jusqu'à 29 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumet. Prochain journal, 18h avec Stanislas Vazak. 12h45 sur France Culture, les midis. Nous vous retrouvons, Chloé Cambrelin.
Merci Anne Fauquemberg et à demain.